qui se sont installées. Elles vont donc nous présenter ce qui se fait dans le cadre de l'école publique à Genève aujourd'hui. Nous avons donc Isabelle Huimin, Isabelle Nicolazzi et Chantal Andermatten, qui sont respectivement directrices des services de l'enseignement primaire, du cycle d'orientation et du poste obligatoire. Je vous donne la parole, mesdames.
Voilà. Chère madame, cher monsieur, j'ai le plaisir de vous présenter un exposé très pragmatique et très concret de l'état d'une réflexion sur l'évolution de la place des faits religieux dans l'enseignement, d'une part, et d'autre part, d'un point de vue de la vie scolaire. Il s'agit pour moi aujourd'hui de situer la transmission des faits religieux dans le projet global de formation de l'élève tel qu'il est défini dans le plan d'études Roman. En tant que directrice de l'enseignement et de la scolarité, il m'appartient de vous présenter comment nous travaillons à mettre en œuvre la transmission des faits religieux, mais également comment ils sont pris en compte dans la vie scolaire. Ce bref exposé se déroulera en deux temps. Une première partie où je m'efforcerai de montrer comment la transmission des faits religieux est déployée d'un point de vue de l'enseignement, et dans la deuxième partie, les questions justement relatives qui sont traitées d'un point de vue de la vie scolaire. Cet exposé se base notamment sur un sondage qui vient d'être réalisé, un sondage qui a été porté par un groupe de travail au niveau de l'enseignement primaire, un groupe constitué de formateurs du service de la coordination pédagogique et de personnes du service de l'enseignement et de la scolarité. Laissez-moi rapidement vous donner le cadre légal qui fixe les objectifs dans lesquels la transmission des faits religieux est mise en œuvre. Il s'agit de l'article 4 de la loi sur l'instruction publique qui assigne à l'école la mission de préparer l'élève à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays en affermissant le sens de ses responsabilités, la faculté de discernement et l'indépendance de jugement, ainsi que de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l'entoure en éveillant en lui le respect d'autrui, l'esprit de solidarité et de coopération et l'attachement aux objectifs du développement durable. Depuis 2004, le département de l'instruction publique renforce sa mission de transmission des faits religieux dans l'enseignement, considérant qu'il s'agit d'une base indispensable à une laïcité construite sur la connaissance. Sous le titre de laïcité engagée, le département de l'instruction publique a fait de cette mission l'une de ses priorités avec les principes suivants. Sans créer de nouvelles disciplines, redéfinir une place à la transmission des faits religieux en l'intégrant de manière plus explicite et plus claire dans les enseignements existants. C'est ce que nous verrons par la suite. Et amener des outils aux élèves pour se situer et comprendre le monde et la société dans laquelle ils évoluent. En effet, le constat tel que défini dans l'introduction du programme de ce jour, qui relève que les religions sont redevenues un motif essentiel dans la formulation des enjeux, amène inévitablement l'école à réfléchir sur les connaissances à développer pour mieux comprendre les enjeux d'un monde toujours plus globalisé, mais pourtant toujours plus contrasté. Vous comprendrez donc que la laïcité à l'école consiste à aborder ces faits de manière objective, comme des repères chronologiques, artistiques et symboliques. La laïcité engagée, c'est de prendre les réalités du monde et aider les élèves à les comprendre, les interpréter, et ceci tout au long de leur scolarité obligatoire et ensuite au poste obligatoire. Je vous propose d'aborder ensemble quelques résultats du sondage qui nous permettent d'illustrer comment l'enseignant aborde les faits religieux dans la classe. Cette enquête, menée auprès de l'ensemble du corps enseignant de l'enseignement primaire, a permis de récolter des informations très précieuses. En effet, cet outil, ce sondage, nous permet de mieux cerner où sont les difficultés et où sont les écueils d'un point de vue du terrain. Les analyses de cette enquête sont en cours. Je vous livre aujourd'hui les premières tendances observées. Comme on peut le constater, 50% des enseignants ont répondu favorablement, ont participé à ce sondage. Un taux de retour qu'on peut considérer comme très satisfaisant et dénoter un intérêt pour cette thématique. Cependant, aujourd'hui, je vous prie de prendre ces informations avec précaution, puisqu'il s'agit d'une première évaluation, et compte tenu aussi de l'échantillonnage, on peut aussi laisser supposer différentes interprétations. L'objectif était de savoir comment sont pris en compte les faits religieux dans l'enseignement et dans la vie scolaire et d'identifier les besoins des enseignants en la matière. Comme annoncé, je vous propose de poursuivre selon deux axes. Un premier axe relatif à l'enseignement et le deuxième axe que nous aborderons par rapport à la vie scolaire. Une première dimension que nous avons souhaité évaluer est le sentiment de compétence. À la question « Vous sentez-vous à même de répondre aux questions posées par vos élèves en lien avec les faits religieux ?» nous avons 42,5% qui répondent par la négative et 54,8% qui répondent par l'affirmative. Ceci dénote deux tendances, ou en tout cas, on a pu récolter un certain nombre aussi de propos plus qualitatifs pour expliquer ces positions, ces tendances qualitatives. Nous avons des enseignants qui complètent en disant « je n'ai pas suffisamment de connaissances sur les religions » ou encore « je réponds sur des faits historiques et renvoie l'enfant à une discussion avec sa famille » ou « j'ai étudié l'islamologie à l'université, fait un trois quarts de licence en histoire hébraïque et une licence en histoire de l'art ». Donc, ce qui montre aussi l'hétérogénéité des profils enseignants et les diversités des connaissances que peuvent avoir nos enseignants. Également des éléments relatifs à la posture et à la posture idéologique, en sachant que certaines personnes réaffirment une position en disant « des personnes se sont battues pour une école laïque, je comprends avec méfiance ce retour en arrière », alors que d'autres se situeraient en disant « je suis très heureuse qu'enfin le département de l'instruction publique mette en place cette enquête, car je pense que l'enseignement du fait religieux en classe est important et nécessaire pour différentes raisons ». Le mélange des cultures, la connaissance de l'autre et la culture générale. Ce sont des citations. Ces différents éléments nous amènent, avec tous les éléments qui ont déjà été posés ce matin, à se poser des questions en termes, évidemment, de formation continue, mais également en termes de clarification de ce qu'est cette laïcité engagée, construite sur la connaissance. Nous avons souhaité aller encore plus loin et savoir comment ils réagissaient face à des questions d'élèves touchant aux faits religieux, toujours d'un point de vue de l'enseignement, et comment ils réagissaient. Nous avons 81% des enseignants qui répondent et 15,8% qui ne répondent pas. Et quand ils n'y répondent pas, pour 11% d'entre eux, ils estiment que ce n'est pas leur rôle, 8% craignent être en contradiction avec le message des parents, et 6% manquent de connaissances, et encore une partie marginale, manque de temps. Donc, nous avons vu, on a posé une première question autour du sentiment de compétence, autour de comment ils réagissaient, et pour nous c'est important encore d'aller plus loin, et de savoir dans quel espace ces questions était abordée, la thématique de la transmission des faits religieux d'un point de vue des notions aussi, où est-ce qu'elle était abordée. Et là, on constate que pour 54% des enseignants, ils abordent les questions relatives à la transmission des faits religieux en histoire, 18% en géographie, 26% en citoyenneté et 17% dans les disciplines artistiques. Et nous avons également un autre élément qui est ressorti, c'est toute la relation avec les sorties scolaires. On a 31 personnes enseignantes qui ont répondu, en lien évidemment avec les autres disciplines, qu'ils abordaient ces questions dans le cadre d'une visite en vieille ville ou d'une activité culturelle dans le cadre du programme culturelle, école et culture. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue de nouveau, d'un point de vue enseignement et d'un point de vue du plan d'études romand ? On voit que vraiment, c'est ce qu'on évoquait également tout à l'heure, que les enseignants honorent la transmission des faits religieux de manière transversale et interdisciplinaire. Par exemple, dans les activités autour de la toponymie des lieux historiques, qui conduiront les élèves à questionner l'épaisseur historique des territoires du canton et à mettre le passé en relation avec le présent. En sciences humaines et sociales, nous avons un objectif identifié en tant que tel dans le plan d'études romand, qui fait référence à l'identification dans la manière les hommes ont organisé leur vie collectivement à travers le temps, ici et ailleurs. Et là aussi, on aborde la question des religions. Ce que je peux également vous dire, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue des outils, je vous dirai également quels sont les outils à disposition, mais d'un point de vue intercantonal, on a un moyen d'enseignement roman qui est en cours d'élaboration. Ce moyen d'enseignement aura plusieurs chapitres portant notamment sur des récits de la création de l'univers, sur la place du religieux dans la vie quotidienne au travers des âges, les mythologies antiques ou encore les spécificités du monothéisme. Donc c'est des choses qui sont en cours, hein, en préparation, on est dans un processus qui est en marche. Je ne vais pas commenter l'ensemble de ces dias, mais on voit également, comme on l'a dit tout à l'heure, que cette dimension peut également être traitée dans le domaine art, au travers de la musique, au travers également de certaines activités artistiques, de toutes sortes, hein, les sculptures, les peintures, et faire le lien avec l'histoire. Une autre dimension qui apparaît dans cette présentation et au travers aussi de tout sondage est toute la question relative à la formation générale qui est décrite et qui est explicite dans le plan d'études romans en tant que tel. Elle a une place et cette formation générale a trait à tout ce qui est en lien avec le vivre ensemble, l'exercice de la démocratie. Et ce point-là est essentiel, surtout compte tenu de l'âge de nos élèves, mais aussi compte tenu du fait qu'à l'école, dans le canton de Genève, nos établissements mettent en place des projets d'établissement. Et ce qu'on a pu par ailleurs constater, c'est qu'au travers de ces projets d'établissement, un grand nombre d'objectifs sont en lien avec le vivre ensemble.
Excusez-moi, madame, mais je vois avec anxiété que vous êtes trois à prendre la parole. Donc,
oui.
Je ne sais pas comment vous l'êtes répartis.
Mais... On se les répartit.
Avec un bon emprise à ta volonté.
Oui.
C'est déjà.
Je crois qu'on a ajusté. Voilà. Donc, Madame Nicoladi vous présentera comment, au cycle d'orientation, la question, dans le cadre du plan d'études romans, dans le cadre de cette transversalité, est prise en compte. Est-ce que vous souhaitez que je passe toute la partie sur la vie scolaire ?
Non.
Alors, je poursuis. Merci. Donc, au travers, on voit bien que toutes ces questions de type enseignement ont une incidence sur la vie scolaire, puisque l'élève qui arrive à l'école, il arrive avec sa culture, sa religion, son bagage. Et donc, factuellement, on se doit de prendre en compte également ces histoires, l'histoire de sa vie. Alors, je vous propose de revenir au sondage. Et quand on revient au sondage et qu'on demande aux enseignants, dans votre cadre professionnel, avez-vous déjà été confronté à des demandes en rapport avec l'appartenance religieuse d'un de vos enseignants ? On a de nombreuses questions qui sont à trait aux restrictions alimentaires et aux demandes de congés. De manière beaucoup plus marginale, des questions de type dispense d'éducation physique ou tenue vestimentaire. Alors, on va encore aller un tout petit peu plus loin, puis savoir, alors, on a ce type de questions, mais vous sentez-vous armé, outillé pour faire face à ces questions ? Nous avons 48,5% qui se sentent suffisamment outillés et 48,2% qui disent ne pas pouvoir faire face aux sollicitations pour des raisons suivantes. Je n'ai pas suffisamment de connaissances, je crains de créer un malentendu avec les familles ou encore je crains l'iniquité de traitement si mes collègues font autrement. Donc, à partir de cette première lecture, ces informations sont précieuses pour nous puisqu'elles nous permettent d'identifier les éléments sur lesquels les améliorations doivent être apportées en termes de développement de formation continue, mais aussi, à l'instar de d'autres cantons, Genève questionne la nécessité de publier des recommandations à l'usage du corps enseignant. Donc très rapidement, les outils à disposition aujourd'hui sont le plan d'études romans, des formations initiales et continues, des formations continues notamment organisées par le service de la coordination pédagogique. Un cours tout récemment a été donné qui était avec la précieuse collaboration de M. Wallot-Macher et M. Borgeau, Genève Carrefour des cultures et des religions. Et puis le programme d'activité tout à l'heure déjà mentionné, des dossiers pédagogiques par le service de la coordination pédagogique et une bibliographie qui vient d'être éditée tout récemment, également à destination des élèves dans un premier temps. Je profite de cette occasion pour remercier...
Madame, écoutez, je suis désolée, mais le temps pour les trois personnes est bientôt échu. Ce serait bien de conclure. Merci beaucoup.
Madame Sonnet, et puis je conclurai en disant que nous sommes conscients qu'il s'agit d'un objet sensible qui doit être abordé sous l'angle de la connaissance et non des croyances et pour lesquelles l'école doit donner les outils aux enseignants afin qu'ils puissent se sentir légitimés, autorisés et formés pour mettre en œuvre la transmission des faits religieux dans une école publique et laïque. Et je m'arrête là.
J'ai une petite question pour les organisateurs. On a commencé un peu plus tard après la pause, on a un retard. Est-ce que ce retard doit être résorbé absolument ou est-ce qu'on peut se permettre de déborder un peu sur l'horaire ?
Il n'y a jamais rien d'absolu dans ce domaine.
D'accord. Alors tout le monde va faire un effort pour se résumer et la salle va faire un effort pour rester jusqu'au bout malgré tout. On avance.
Alors, Madame, Messieurs, moi j'avais prévu de vous montrer, puisque vous avez déjà eu le cadre conceptuel, puisque Madame Villemain vous a inscrit pour le canton de Genève dans quel cadre réglementaire et légaux et quelles intentions nous avons pour l'école, j'aurais voulu vous montrer comment nous avons essayé de concrétiser un programme spécifique pour le cycle d'orientation avec tout ce qu'il fallait pour outiller et les élèves et les enseignants. Alors, très rapidement, puisque le temps passe, j'aimerais quand même dire que nous nous sommes partis dans cette démarche sur ce qui existait déjà. Et en 2008, nous avons recensé tout ce qui était déjà fait. Dans le groupe d'histoire et d'éducation citoyenne, il y avait des formations, il y avait des séquences d'enseignement, il y avait une bonne partie du programme d'histoire qui coïncidait avec nos intentions. Alors, très vite, nous avons défini un programme en 2009 et nous avons eu la très belle opportunité en 2010 de lire le plan d'études roman qui devenait notre outil à partir de la rentrée de 11e et de voir que nous articulions notre démarche complètement avec les objectifs et la démarche de ce plan d'études. Et ainsi de suite, nous avons préparé en anticipant une année à l'avance la rentrée 2011 dans laquelle nous avons introduit l'enseignement spécifique pour le cycle d'orientation à la rentrée 2012 également, et nous préparons et nous mettons finalement la dernière touche à la préparation pour le cadre de la rentrée scolaire, 2013-2014. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est quelque part les garanties et les contraintes que je vais vous énumérer maintenant et qui représentent tout un parcours d'explicitation, de négociation, d'échange et de conviction qu'il fallait faire pour introduire ce nouveau programme au niveau du cycle d'orientation. Nous l'avons articulé sur des principes qui tenaient très à cœur des enseignants, les enseignants qui, je vous rappelle, sont les acteurs qui mettent les choses en place dans les écoles et avec lesquels nous avons une longue habitude de collaboration dans tout ce qui touche à l'enseignement. Le premier point, c'était le respect de la diversité de nos élèves. Le deuxième point, c'était de rappeler que nous n'avions pas oublié que nous travaillions dans une école laïque. Et le troisième point, que nous étions bien au niveau de renforcement de connaissances de nos élèves dans un espace scolaire et que nous cherchions à développer des compétences qui elles-mêmes étaient scolaires, d'analyse et de questionnement, et un questionnement qui était au niveau du rationnel. Les finalités, nous les avons échangées assez rapidement. Elles ont été présentées dans les différents groupes d'acteurs d'une école et il était bien évident que nous les avions résumées à ce qui figurait déjà dans l'outil de travail des professeurs d'histoire et d'éducation citoyenne, des clés de lecture à fournir ou permettre à nos élèves de construire des clés de lecture plus exactement et de questionner des modes et des pensées dans différentes cultures à travers le temps et l'espace. Pour ce faire, il a fallu, à un moment donné, outiller les élèves, outiller les enseignants. Et nous avons trois enseignantes qui se sont déclarées très impliquées, très motivées, qui se sont mises à un travail d'élaboration de brochures, une par année scolaire pour nos élèves, avec des extraits de textes, des extraits plus ou moins longs, mais qui tiennent compte de la réalité scolaire. C'est ce que nous avons appelé les grands textes. Et c'est ce qui est devenu, pour le cycle d'orientation, un enseignement des grands textes. Alors, des grands textes, ça paraît à la fois tout simple, parce que nous avons tous une représentation de ce que sont les grands textes, mais il a fallu quand même essayer de restreindre une encyclopédie universelle et la ramener à la mesure et à l'échelle d'une école. Alors, nous avons convenu, et je ne reviens pas dessus, puisque Philippe Bourgeot vous l'a présenté, que ce seraient des textes qui étaient déterminants pour une culture et une société, que c'était des textes qui allaient se compléter sur les différents axes qui construisent un citoyen dans la lecture qu'il a du monde et une société, et surtout que c'était des textes qu'on puisse partager dans une classe scolaire en vue d'un apprentissage scolaire. Des textes qui permettent de développer des connaissances, comme je l'ai dit et comme nous l'avons vu tout au long de ces présentations, une meilleure représentation des autres, une meilleure compréhension grâce à un questionnement partagé autour de pensées qui sont universelles. Choisir des grands textes, ça n'a pas été simple. Choisir des grands textes, s'exposer, c'est s'exposer de différentes manières, parce que nous avons dû construire des fils conducteurs et qu'il y avait 36 000 possibilités de fils conducteurs. C'est s'exposer à la critique parce qu'il y a en chacun d'entre nous une vision d'une bibliothèque universelle et puis que nous avons forcément dû laisser des choses de côté et que nous avons évidemment déçu un certain nombre de personnes. Choisir les grands textes et laisser évidemment à notre société du XXe siècle beaucoup de grandes et belles pages, mais nous avions un objectif qui était celui de rendre cet enseignement possible pour les enseignants d'histoire et d'éducation citoyenne dans des classes du cycle d'orientation en tenant compte du rythme scolaire. Choisir des grands textes, nous avons dû fournir un certain nombre de garanties aux enseignants, aux partenaires de l'école, aux parents. Nous avons dû tenir compte d'un certain nombre de contraintes. D'abord, nous avons bénéficié de l'expertise scientifique du professeur Philippe Borchaud et nous avons eu la chance qu'il ait une équipe autour de lui pour rassembler les grands textes qui pouvaient rentrer dans notre programme. Ensuite, cet enseignement des grands textes, il est absolument inscrit et en lien avec les objectifs du plan d'études qui est celui des professeurs d'histoire et de géographie, ce qui était absolument important. Du côté des élèves, au cycle d'orientation, nous devions tenir compte de leur âge, nous devions tenir compte aussi de leur capacité de lecture, de leurs compétences en vocabulaire et de leurs références culturelles. Au niveau des élèves, il fallait tenir compte qu'ils aient entre 12 et 15 ans. Il fallait que ces textes, pour accrocher, les motiver, les impliquer, fassent sens rapidement. Et il fallait qu'ils soutiennent un questionnement qui soit aussi le leur, qu'il puisse être commun entre les élèves et qu'ils puissent éventuellement partagé pendant les heures qui sont dédiées à cet enseignement. Les démarches pour les maîtres, il a fallu donner des garanties. D'abord que nous étions dans la même démarche que celle qu'ils exploitent du côté de l'histoire, une démarche qui suscite des approches historiques, culturelles et notamment comparatives. Il fallait aussi leur montrer que nous avions pour chacune des brochures des entrées qui sont celles de leur nouveau plan d'études roman, une entrée thématique et une entrée chronologique, et que nous avions à faire avec les élèves et avec eux tout un travail critique et systématique sur la pluralité des sources. Et finalement, nous avons décliné notre programme en 3 ans. Il est progressif pour les élèves et il est corrélé à une contextualisation qui leur permet de combler les lacunes qu'ils ont en référence culturelle. Les brochures, vous en avez vu quelques exemples à l'entrée, elles contiennent des textes, des extraits de textes, elles contiennent des contextualisations historiques, elles contiennent aussi une riche iconographie, puisqu'il est apparu très important de pouvoir prolonger la réflexion des textes sur les images et parfois de faire rebondir la réflexion à partir des images. La première brochure est un objectif et décline un objectif du plan d'études autour des grandes questions existentielles, l'origine, la création du monde, l'au-delà, la mort, etc. La deuxième brochure est autour du thème du fondement du lien social dans différentes cultures à travers le temps et l'espace. Il s'agit de questionner les règles coutumières, de voir les premiers codes écrits, de voir la loi dans les textes religieux, de voir comment les écoles jouent le rôle de transmission du lien social, et puis de passer aux lumières et de voir le questionnement qu'il y a eu autour du droit divin pour arriver au contrat social. Et puis la brochure qui est en cours d'impression pour l'année prochaine, la brochure des grands textes 11e, va permettre aux élèves qui ont une maturité différente de celle qu'ils ont à 12 ans de questionner les différentes sociétés dans leurs réponses qu'elles donnent au respect des droits humains, et puis de situer l'individu par rapport au groupe social et le groupe social par rapport à son ouverture au monde, sa situation dans le monde. Il s'agit à la fois de la découverte de l'altérité, avec le regard qu'on pose sur les autres et que les autres ont posé sur nous, de parler de la tolérance avec Voltaire, et il s'agit aussi de voir ce à quoi conduit le rejet total de l'ouverture aux autres et de l'altérité avec ce que nous avons appelé la déshumanisation qui fait évidemment tout un chapitre important autour des camps de concentration. Et puis nous abordons aussi une étape qui est différente dans cette brochure du 11e et qui touche à la représentation que nous pouvons avoir d'un citoyen du 20e siècle qui doit d'abord voir comment il y a eu autour des droits fondamentaux un certain nombre de mouvements collectifs pour réclamer de l'égalité. Il s'agit de l'esclavage, il s'agit de la couleur de la peau. Il peut s'agir aussi du genre et de la place de la femme dans la société. Et puis nous passons dans une dernière partie sur la question très ouverte et très importante de être et être libre de penser et de l'engagement que nous pouvons avoir dans le monde. Autour d'un programme, il y a eu évidemment beaucoup de discussions, de communications. Il y a, pour rassurer les enseignants et leur montrer la dynamique des activités élèves, il y a des brochures pour les maîtres avec des contextualisations qui sont développées. Il y a eu bien sûr des liens avec la formation initiale pour prévenir l'Institut de formation de l'introduction de ce nouveau programme et qu'il en tienne en compte dans sa formation. Il y a des documents à destination des parents et nous avons mis sur pied sur 3 ans pour avoir un retour régulier de ce qui se passe dans les écoles, un observatoire qui nous a permis déjà de réactualiser, de réajuster un certain nombre de choses dans les brochures et qui nous a montré où étaient les réticences des enseignants qui n'ont jamais touché sur le fond, c'est-à-dire sur les textes qui avaient été retenus, mais qui sont plutôt dans l'articulation avec leur programme d'histoire, et nous n'avons pas fini de travailler là-dessus, et nous avons bien entendu prévu un certain nombre de formations.
Merci. Merci aux 3 oratrices de faire tout ça au pas de charge, avec néanmoins beaucoup de compétences et d'intérêt de la salle, je le constate. C'est pour ça que je suis malheureuse de devoir interrompre parfois, mais on a aussi un horaire.
Donc il me reste moins 6 minutes.
À peu près, oui.
Mesdames et messieurs, je vais essayer de passer rapidement sur ce qui constitue le contexte. Comme son nom l'indique, l'enseignement post-obligatoire prend le relais de la scolarité obligatoire. Ce qui signifie clairement que du point de vue des principes, des finalités, voire des objectifs pédagogiques, nous nous inscrivons parfaitement dans la continuité de ce qui vient d'être démontré par mes collègues. Il n'est pas inutile pourtant que très rapidement je caractérise l'enseignement post-obligatoire du point de vue de l'âge de ses élèves. Nous accueillons de jeunes adultes. Du point de vue des formations, nous accueillons une panoplie de formations, mettant en œuvre une panoplie de formations tant générales que professionnelles. Les générales dans les collèges et les écoles de culture générale, les professionnels touchant à tous les domaines professionnels, la santé, les arts, tout autant que le commerce. Ce qui caractérise fortement la scolarité post-obligatoire par rapport à la scolarité obligatoire, c'est la nécessité pour le canton de faire reconnaître ses plans d'études pour être en mesure, par la Confédération, par la Suisse, de faire la preuve de leur adéquation avec les textes réglementaires fédéraux ou nationaux pour avoir le droit de délivrer des certifications. C'est un contexte un peu rigide, quel que soit le nombre de nos plans d'études. En fait, ils sont grosso modo de l'ordre de 4 plans d'études pour les principales filières du post-obligatoire. Tous font une part importante à l'acquisition d'une culture générale élargie par rapport à ce qui s'est fait en formation obligatoire, approfondie dans certains domaines et champs d'études, domaines d'études, on retrouve les mêmes que ceux de la scolarité obligatoire, une culture générale qui vise à quelque chose, selon les formations suivies, à permettre de suivre, à permettre d'accéder aux formations tertiaires ou d'entrer dans le monde professionnel pour y accepter, pour y prendre une place de manière responsable. Alors, rapidement, je voudrais vous montrer ce qui se fait dans nos écoles. Malgré l'impression de rigidité de nos plans d'études, il existe dans les plans d'études fédéraux des zones qu'on peut utiliser pour développer, pour utiliser la créativité locale d'une école, c'est-à-dire d'une direction, d'une équipe de direction, d'une équipe d'enseignants. Il ne s'agit pas de créer des disciplines ou de créer des champs d'études, mais il s'agit de s'approprier un espace qui s'appelle, selon les formations, options complémentaires, ça c'est le terme utilisé dans les formations générales, et dans les formations professionnelles, on parle de branches complémentaires. Pardon, j'ai dû appuyer sans m'en rendre compte. Voilà, on parle de branches complémentaires. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, par rapport à un domaine d'étude étudié, d'approfondir ou d'élargir l'approche du domaine concerné. Il s'agit presque d'une discipline, puisque dans les différentes formations, elle est évaluée, mais il s'agit pour les écoles de proposer une sorte d'offre par rapport au domaine d'études. Quels sont les cours que l'on peut proposer aux élèves au terme de leur formation dans les derniers degrés qui fassent un espace aux compétences pédagogiques des enseignants, à leurs intérêts parfois, à leurs passions, pour développer et approfondir un sujet. À titre d'exemple, lorsqu'il s'agit d'élargir un champ d'études, j'ai retenu l'exemple pour le domaine de la biologie comme titre d'option complémentaire, l'origine et l'évolution de l'homme. Et pour le domaine de l'approfondissement, puisque les options complémentaires peuvent poursuivre les deux objectifs, j'ai retenu comme exemple, à votre intention, du domaine des sciences humaines, histoire et enjeux des rapports entre hommes et femmes. C'est bien là que le fait religieux ou les faits religieux trouvent leur ancrage au poste obligatoire. À titre d'exemple, le synopsis d'un de ces cours d'options complémentaires qui est proposé aux élèves, je vous laisse le temps de le découvrir rapidement, mais vous verrez et constaterez rapidement qu'il s'agit de l'étude des grandes religions, que nous partons, qu'il est proposé aux élèves de partir des faits et des documents pour aller vers la discussion, le débat et la mise en perspective. C'est un exemple parmi d'autres. Vous avez ici d'autres exemples que j'ai tirés de l'ensemble de l'offre qui est faite aux élèves cette année dans nos écoles. Il s'agit là d'exemples tirés des collèges, des établissements du Collège de Genève. Vous voyez que donc c'est un exemple, c'est une liste aléatoire, elle n'est ni exhaustive ni exclusive. Vous trouvez l'ensemble, si vous êtes intéressé, de cette documentation sur le site des écoles. Encore un mot, il ne s'agit pas seulement du domaine des sciences humaines qui est privilégié dans ces titres d'options complémentaires. Les domaines d'études concernés sont parfois l'histoire de l'art, parfois les langues anciennes, très souvent la philosophie aussi, mais aussi les sciences. Donc, cet espace utilisé par l'école du poste obligatoire. Un deuxième aspect que j'aimerais encore rapidement mettre en évidence sur ce qui se fait, c'est la possibilité, voire l'exigence qui est donnée à nos élèves de devenir acteurs de leur formation au terme de leur formation. Dans toutes les formations actuellement au poste obligatoire, les élèves sont amenés à rédiger au terme de leur formation un travail personnel, dont le nom varie, travail de maturité gymnasiale, travail personnel, travail de maturité spécialisée, voire travail de certificat dans les formations duales, c'est-à-dire les formations qui mènent au CFC. Ce qui est demandé aux élèves, ce qui est attendu des élèves à ce moment-là, c'est de dépasser l'approche disciplinaire, d'aller avec un regard transdisciplinaire par rapport à une discipline ou un contenu étudié pendant sa scolarité. L'objectif de ce travail, c'est bien entendu de renforcer son autonomie du point de vue de la méthodologie de travail, mais aussi du point de vue des contenus, puisqu'il va être amené à choisir une problématique et l'institution compte sur lui pour faire la preuve de la démonstration de la posture critique qu'il est capable d'adopter, c'est-à-dire de sa capacité à argumenter de manière rationnelle, à prendre de la distance par rapport aux connaissances acquises, aux thèmes travaillés pendant sa formation, voire aux sources utilisées pour rédiger son travail. Ici aussi, je vous propose quelques exemples que vous pouvez parcourir. Je les ai choisis sciemment, volontairement, dans les travaux de maturité réalisés ces deux dernières années et uniquement au sein d'une école. Donc, je ne porte pas crédit ou je ne mets pas en évidence l'ensemble des travaux rédigés dans ce domaine. Mais vous pouvez voir que le premier élève, par exemple, a essayé de s'interroger sur ce que les textes sacrés disait sur la musique en tant que moyen privilégié pour se rapprocher du divin. Le deuxième a essayé de comprendre pourquoi l'islam est considéré de manière si négative, pourquoi son image était si négative, considérée comme une religion intolérante, misogyne, renfermée sur soi. Et puis le dernier que je mettrai en exergue, c'est la démarche de travail qui est possible. C'est le quatrième travail où l'enquête est autorisée pour les élèves comme méthodologie de travail. Et cet élève-là a interviewé les camarades de son établissement pour identifier de trois religions, je crois, protestants, catholiques et musulmans, pour voir où se situaient leurs pratiques. Voilà pour ce qui se fait dans nos écoles. Il me revenait de conclure en parlant de ce qui s'est fait. Depuis 2005, le département de l'instruction publique a attaché énormément d'importance à mettre en place des formations continues dans le domaine du fait des faits religieux. Le premier séminaire mis en place a remporté un succès énorme, excusez-moi l'adjectif, ce qui fait que nous avons poursuivi sur cette voie, développé l'offre étoffer l'offre, étayer l'offre et nuancer l'offre. Alors, quelques mots sur ceci. Vous savez peut-être pourquoi cette démarche. À Genève, la formation continue, l'offre de formation continue répond aux besoins et aux attentes des enseignants qui peuvent, pour la plupart du temps, dans la plupart des temps, proposer des thèmes ou des objectifs de formation continue, ce qui rend notre offre de formation continue extrêmement flexible et susceptible de s'adapter aux besoins ou aux demandes. Ici, dans ce domaine-là, il me plaît de relever que malgré le caractère volontaire qui est laissé à la participation aux formations continues, ce sont plus de 2000 inscriptions qui ont été enregistrées dans ces séminaires proposés depuis 2005. Un mot sur leur typologie. La première catégorie de séminaires portait bien évidemment sur une approche globale des faits religieux. Il s'agissait là de dresser un panorama des différentes religions, de leurs fondements, toujours en présence de représentants de chacune des grandes religions. Ainsi, par exemple, l'un s'intitulait « Le fait religieux » ou « Les récits primordiaux ». Dans un deuxième temps, dans la même catégorie de séminaires, nous avons proposé une approche plus ciblée sur certains thèmes, exemple « Religion et pouvoir »,« Les religions et les femmes »,« Religion et musique », c'est celui qui, cette année encore, donc avec 7 ans de recul, a accueilli une centaine de personnes, « Religion et musique ». Voilà pour la première catégorie globale qui permet aux enseignants qui le souhaitent de poser les fondements d'une formation continue et de le prolonger par des séminaires interdisciplinaires, c'est la deuxième catégorie, touchant quant à eux plutôt des questions de valeur, des questions liées au lien social et ici aussi avec l'appui de personnalités importantes et de philosophes, d'historiens, de théologiens ou de scientifiques. À titre d'exemple, les deux premières années, il s'agit de réfléchir à la responsabilité individuelle et collective, ça s'est fait en deux temps sur deux ans, ou à la justice et ses justices. Le troisième niveau de séminaire est quant à lui plus ciblé sur un domaine d'études et de manière tout à fait logique, il s'agit du domaine des sciences humaines, où là, des spécialistes sont intervenus sur des questions encore plus pointues. Est-ce que je vais trouver un exemple à vous citer ? Voilà. Par exemple, autour de l'hindouisme, animalité et humanité dans les traditions antiques, ou encore histoire des religions, les mythes fondateurs. Voilà, mesdames, messieurs, l'offre pour l'année prochaine en formation continue est en train de s'élaborer. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Madame Averter.
Merci beaucoup.